Oui, bonjour. Je suis médiatrice culturelle.
Ah, ça tombe
donc
bien.
Pour le coup, j'ai été un peu, je me suis sentie bien visée par tout ce que vous avez exposé, mais vous avez visé juste et en effet, c'est toutes les missions que nous avons au sein des différentes structures culturelles. Alors c'est vrai que votre champ était plutôt axé sur les musées.
Oui.
Pour ma part, j'ai un diplôme, enfin je sors d'un master médiation de la culture et du patrimoine à Avignon justement avec Monsieur Davalon.
D'accord.
Par contre, je travaille depuis maintenant un an et demi, et j'ai choisi de travailler plutôt dans le spectacle vivant et l'art contemporain.
Oui.
Voilà. Et c'est vrai que finalement, on se rend compte que le médiateur culturel est une fonction et qui c'est un peu un caméléon puisque on a des missions différentes suivant les structures dans lesquelles on est et pour le coup on n'est pas un prof, enfin on travaille avec les enseignants mais on n'est pour autant pas un enseignant, et c'est là c'est vraiment intéressant justement le fait que on est toujours en collaboration et justement dans ma structure on travaille avec un professeur relais qui est un professeur déchargé qui a une rémunération de la DAC pour travailler avec nous sur pour se mettre en mode projet comme on l'a dit précédemment et justement monter des projets toujours avec des objectifs pédagogiques et des objectifs artistiques. Voilà.
Oui. Oui, vous avez raison. Alors, ce dispositif de professeur relais existe partout, hein, dans toutes les institutions, c'est vrai. Donc, il y a toujours cette interface aussi. Et le médiateur se différencie du professeur en ce sens que, effectivement, il intervient, on l'a dit, ponctuellement. Il peut avoir des connaissances pédagogiques et didactiques, mais c'est pas ce qu'il va mettre en avant en premier lieu, en fait. Et il va chercher à faire revivre l'expérience artistique. C'est un petit peu différent, hein, c'est vrai.
Ce que je voulais dire, c'est par exemple à Genève, nous on a des cellules pédagogiques d'accueil en fait qui sont avec des professeurs d'art plastique et des médiateurs du musée. C'est-à-dire qu'au début, quand on nous a mis à collaborer ensemble, c'était assez difficile parce que chacun croyait que l'un allait prendre le rôle de l'autre. Enfin, disons qu'il y avait un truc de territoire et voir arriver l'école dans le musée. Ou arriver en tant que prof d'art plastique avec l'expérience des enfants par rapport à un médiateur qui a juste la connaissance. Mais à partir du moment donné où les choses ont été comprises que c'était pas un danger ni pour l'un ni pour l'autre, le discours à présent c'est qu'on n'est jamais meilleur quand on est ensemble. Et en fait, on a fait différents types d'approches, mais le fait est, si je devais résumer, c'est que les plasticiens ont aidé les médiateurs à préparer, entre guillemets, des workshops, c'est-à-dire des ateliers pratiques en lien avec ce qu'ils voulaient développer, beaucoup plus pertinents, d'activités. Les médiateurs ont appris aux plasticiens à finalement, pas forcément regarder toute l'exposition, mais choisir des choses pour regarder en particulier une chose sur cette chose ou une chose sur une autre, c'est-à-dire cette histoire un petit peu de pouvoir comprendre les choses par des éclairages ou pas forcément de manière on commence par là et puis on va dans le temps, enfin ça dépend comment organiser l'accrochage chronologique, etc. Du coup on a différentes sortes d'approches. On a des visites guidées essentiellement pour les enseignants, pour qu'ils s'emparent du contenu et qu'ils décident d'y aller seuls en se disant moi par rapport à ce que je veux aborder, ce que je trouve intéressant, je vais peut-être faire ça en classe, etc., puis je vais venir, puis je vais voir ça. Il y a ceux qui savent ce qu'ils vont faire, mais qui veulent une visite guidée. Enfin, voilà, on se rend compte qu'il faut plusieurs... et de plus en plus, les médiateurs, ils ont des téléphones d'enseignants quand ils s'inscrivent, avec une petite personnalisation de la demande. Et pour eux, une classe préparée, entre guillemets, c'est une visite beaucoup plus enrichissante pour eux que juste la classe qui arrive sans rien. Alors c'est délicat, mais en même temps, sans rien, ça peut être aussi un choc qui peut permettre après d'être repris en classe. Voilà. De la même manière dont vous disiez qu'il y a différentes sortes de médiation, je crois qu'il faut essayer de faire vivre différentes sortes d'accueil. Et que que ça soit les profs d'art plastique ou les médiateurs, on apprend beaucoup de vivre des expériences ensemble. Voilà.
accueillis. Oui, vous avez tout à fait raison. Je l'ai vécu moi-même parce que j'ai fait des observations participantes aussi en tant que formatrice ou en tant que professeure d'art plastique. J'ai commencé dans des lycées professionnels, dans des ZEP. Donc j'ai eu des expériences très diverses. Et après, dans la formation pour adultes, et je continue à travailler avec des médiateurs. Et je comprends tout à fait cette notion de territoire parce que nous, pendant très longtemps, je sais que Jean-Paul Filliou vous en a parlé hier, j'étais là, il y a eu ce problème d'identité professionnelle, c'est-à-dire qui nous sommes quand on est au musée. Et dans notre formation de plasticien, on nous dit parfois qu'on est autosuffisant, qu'on peut tout à fait guider ou expliquer à nos élèves les œuvres, ce qui est exact sous un certain point de vue, mais pas pour un autre. Donc du coup, c'est vrai qu'on s'interroge au départ quand on débute. Enfin, en tout cas, pour ma part, je me suis beaucoup interrogée et j'ai décidé en toute conscience de travailler avec des médiateurs très régulièrement. Alors, c'est vrai que là, on a réfléchi dans un groupe de recherche développement avec Françoise Buffet à ces questions-là. Si ça vous intéresse, on a publié plusieurs ouvrages. Là, je n'en ai mis qu'un, mais c'était celui qui s'appelait « Éducation et culture en Europe, le rôle du partenariat ». Mais on a publié un premier livre qui s'appelait « Entre école et musée, le partenariat culturel d'éducation ». Et Françoise Buffet, qui est sociologue, explique très bien cette question des identités professionnelles. Bon, elle a pris sa retraite maintenant, mais on a travaillé un certain nombre d'années dans ce groupe avec des chargés de mission, des responsables de services culturels, des musées, des sites patrimoniaux aussi, hein, des personnes très différentes et des professeurs. Et du coup, on s'est aperçu que c'était aussi une nécessité professionnelle que de travailler ensemble et que du coup, on avait vraiment ce principe de coéducation. Enfin, nous, c'est ce qui nous guidait. Et voilà, mais c'est compliqué à mettre en œuvre. Et puis, il faut le rendre conscient, ce qui n'est pas toujours simple. Et puis, il y a des frictions. Et puis, on n'est pas toujours d'accord sur les objectifs, et sur le vocabulaire et voilà, sur les priorités. Voilà, c'est assez intéressant, effectivement. Mais oui, je sais qu'à Genève, il y a des expérimentations très très novatrices. C'est intéressant. D'ailleurs, je lis autant que je peux, mais on pourra échanger encore. Voilà. Oui.
Alors, c'est juste un témoignage de partenariat éducation nationale médiateur.
Oui.
Je suis conseiller pédagogique du premier degré et j'ai eu l'occasion de travailler avec les médiateurs d'un des musées de Saint-Étienne, qui est le musée de la mine.
Oui.
Et en fait, un jour, en pleine discussion, les médiateurs disaient le problème, c'est qu'on a plusieurs profils d'enseignants, entre l'enseignant consumériste et qui le voyage de fin d'année.
Oui, ça arrive assez souvent. Hein.
Où il n'y a rien avant, rien après. L'enseignant d'un autre à l'extrême qui arrive et que limite la visite ne sert plus à rien, puisque tout a été vu, tout a été presque vu avant. Et du coup, le côté découverte. Alors là, le musée de la mine de Saint-Étienne, c'est pas du tout un musée de.
Oui, c'est un musée vivant. Site, oui.
C'est le site et puis la découverte d'une ancienne galerie. Et du coup, on a le projet qui est déjà lancé cette année, mais pour l'année prochaine, avec ma collègue conseillère en art visuel, de vraiment essayer, à la demande des médiateurs, d'établir, alors je sais pas quel nom on va lui donner, une charte ou du visiteur.
Oui.
Et ce que les médiateurs aimeraient que les élèves sachent, mais aussi ce que les médiateurs aimeraient que les élèves ne sachent pas.
Surtout pas. Oui, d'accord.
Voilà, aussi, enfin, c'était le problème de leur place, se dire qu'est-ce que j'apporte moi qui n'ai pas déjà apporté, mais que j'ai pas le temps non plus de tout apporter dans une visite d'une heure et demie. Mm-hmm. Et voilà, c'est notre projet de cette année avec ce musée-là.
Donc, c'est très intéressant. Ouais.
De bâtir ça et que ce soit vraiment en diffusion des enseignants.
D'accord.
Et qu'ils sachent vraiment, enfin voilà, c'est l'aide à la préparation et savoir aussi à quel moment intervient la visite. En début, enfin, elle peut très bien intervenir en tout début de projet pour lancer après, mais ça va, du coup, le médiateur n'apportera pas la même chose que si la visite. Et ça, du coup, cette co-construction, elle paraît. Parce qu'il reste quand même pour les classes un respect, ce qu'on dit, hein, du programme malheureux. Enfin,
et oui,
qui
bien
est quand
sûr.
Même très cadrant aussi.
Bien sûr.
Et que se lancer dans un vrai projet de partenariat. Voilà, c'était juste
d'accord.
un témoignage.
Ouais, merci de ce témoignage. Si vous pouvez me tenir au courant, j'en serais ravie. C'est bien. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec le musée d'art moderne de Saint-Étienne à une époque, un peu moins maintenant. Et c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir un responsable à l'époque du service des publics qui était très dynamique, Monsieur Matvey. Et on a beaucoup travaillé sur la formation des enseignants à ce moment-là. et puis avec un artiste qui était médiateur à l'époque là-bas, Jean-Marc Serino, et du coup on avait fait des médiations à deux voix, lui et moi, et c'est vrai que ça a été très très enrichissant. Alors, je pense qu'effectivement il y a plein de manières de travailler ensemble, enseignants et médiateurs, et effectivement peut-être clarifier, on l'a dit à plusieurs reprises hein, dans vos journées, j'ai cru comprendre, le rôle de chacun, c'est très important, se mettre d'accord effectivement sur le projet bien en amont et ne pas faire ça comme ça d'une manière improvisée. Alors bien sûr on a des ajustements, il y a des surprises et heureusement, mais il faut quand même cadrer je pense les choses au départ. Oui, c'est vrai. Oui.
Bonjour, merci, j'ai trouvé votre intervention très très intéressante.
Merci.
Plusieurs titres, parce que je suis professeur des écoles et je viens d'achever un master en médiation culturelle à l'ESPE de Versailles.
D'accord.
Qui développe un parcours en médiation culturelle, mm-hmm. et qui prépare également au concours de professeur des écoles.
Oui.
Dans ce master, de nombreux enseignants suivent cette formation un peu à distance.
Oui.
C'est ce que j'ai pu faire pendant 2 ans. Et donc, je suis très touché par ce que vous avez effectivement apporté là aujourd'hui, et grâce à l'IFE, d'entendre une conférence sur le métier de médiateur. Moi, j'ai pu effectivement toucher de près cette jonction, cette transition de professeur à médiateur, de médiateur à professeur. J'ai beaucoup questionné cela.
Oui.
Et ça influe ma pratique aujourd'hui, parce que je pense que j'étais peut-être un profil de professeur dans la consommation d'un musée. Ça a rapproché les liens que je peux avoir avec des médiateurs. Et de par ma fonction aujourd'hui, je suis coordonnateur en éducation prioritaire. J'ai pu proposer un projet qui est basé sur l'initiation d'enfants à la médiation culturelle.
D'accord.
Et ce sont des stagiaires de l'ESPE de Versailles en médiation culturelle qui conduisent des ateliers en classe et mm-hmm. en partenariat avec le Centre Pompidou.
D'accord.
Et donc je suis vraiment dans ce questionnement, et la deuxième partie de votre thèse que vous n'avez pas présentée là m'intéresse énormément. Voilà.
D'accord. Écoutez, j'ai mis mon adresse au départ, peut-être l'avez-vous vu. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Voilà, alors ma thèse n'est pas en ligne, parfois on me demande. Alors j'avoue que c'est un choix parce que je suis en train d'écrire la version publique. Voilà, je n'ai pas fini parce que c'est compliqué de réécrire, parce qu'il faut réécrire, hein, ça n'est pas du tout la même écriture. Voilà, donc j'espère que ma thèse sortira sous une forme chez l'Harmattan tout public, voilà, dans un an au plus tard. Mais c'est un gros travail, voilà. Et par contre, si vous voulez échanger, n'hésitez pas. Donc j'ai la même adresse que tous les formateurs à l'université, mais c'est corinne.ibora. Alors Ibo avec un O, 2 R A. Et puis univ-lyon1.fr. Donc toutes les personnes qui voudraient échanger avec moi, n'hésitez pas, parce que je continue cette recherche et que je suis toujours à l'écoute et à l'affût de témoignages, de questionnements, d'échanges de pratiques. Voilà, ça m'intéresse beaucoup. Alors je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai qu'en tant que formatrice, depuis plusieurs années, je dirige des mémoires professionnelles d'abord, et même maintenant des mémoires de master. Et cette année, je dirige un séminaire effectivement sur la médiation culturelle et artistique, ainsi que scientifique. Mais pour l'instant, on a plus d'artistes que de scientifiques. Et donc, on essaye. Alors, bon, dans les maquettes, c'est toujours un peu compliqué. On a peu d'heures, mais en tout cas, d'éveiller l'intérêt, et dans d'autres yeux aussi, projets, de faire vivre des expériences un peu fortes à de jeunes étudiants pour qu'ils aient envie après de se mobiliser sur le terrain. Voilà, c'est important, et je suis ravie de voir qu'il y a d'autres formations qui le font. Enfin, j'avais eu un petit peu quelques échos, mais je ne savais pas exactement les détails. Voilà. Merci à vous de votre intervention.
Oui, pour poursuivre à propos du territoire et des plates-bandes,
oui.
N'est-ce pas parce qu'on a le même objet de travail, mm-hmm. qui est la compréhension du monde et
oui.
aider l'enfant ou l'élève à grandir, puisque fondamentalement c'est ça,
oui.
et que c'est notre place qui est questionnée, que ce soit un médiateur, que ce soit les parents, que ce soit l'élève,
mm-hmm.
c'est comment, puisque notre objet c'est qu'ils comprennent et qu'ils grandissent, comment on se situe là-dedans, et s'il y a l'un ou l'autre qui veut prendre le pas sur l'autre, c'est dans ces conditions-là que ça ne fonctionne pas.
Oui, vous avez totalement raison, je partage. On est normalement un terme à la mode dans une synergie, on est complémentaires, c'est pour ça aussi qu'on a des textes de cadrage là, notamment le socle commun des connaissances et des compétences, les parcours d'éducation artistique et culturelle, mais beaucoup de textes qui essayent de faire travailler les professionnels ensemble et puis de relier l'école à la famille. Et je pense que c'est très très important. C'est tout à fait vrai. Il ne faut pas, surtout pas qu'on soit dans une logique de concurrence, mais c'est vrai qu'hélas, mais dans le milieu de la culture, en tout cas les médiateurs me l'ont dit parfois, mais micro-coupé, mais d'autres fois de façon explicite, il y a une notion de concurrence aussi, il y a une notion de marché aussi, de performance, et ça finit par toucher toutes les sphères et parfois même un peu l'école. Bon. Je m'interroge en tout cas. Oui.
Non, il y a une prise de parole ici demandée. Oui. Et puis on va, parce que tu veux nous faire vivre un atelier.
Films, oui, c'est vrai. Peut-être que on pourrait échanger à partir des films. Oui.
En tout, l'activité, ça durera 30 minutes. Il y a une intervention là.
Oui, d'accord.
Une dernière et après 30 minutes, ça ira?
Oui, ça ira. Je vais en passer que deux du coup, mais ça ira. Oui, oui. D'accord.
Oui, bonjour. Je dirige, moi, un service qui est un peu à la croisée de plusieurs choses qu'on a évoquées, communication, relations publiques et action culturelle, donc médiation culturelle dans un théâtre, une scène nationale. Et je voulais vous dire que ce que je vis sur le terrain quand je monte des projets d'action culturelle, des ateliers avec des enseignants, c'est que ce qui n'a pas forcément été évoqué là, me semble-t-il, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de médiation. C'est-à-dire que dans un théâtre, on ne se situe pas directement comme un intervenant au cœur de la discipline, que ce soit du théâtre ou de la danse, mais on est en même temps une interface entre des artistes et des enseignants, l'artiste étant lui-même interface entre un enseignant et ses élèves, donc il y a vraiment plusieurs niveaux, et c'est une difficulté peut-être encore supplémentaire, parce qu'effectivement, je vois, ma collègue doit procéder un petit peu comme moi, quand on monte des projets avec des enseignants, on essaie de s'approprier les propositions qui nous sont faites par des artistes, qu'on accueille, dans le cadre de résidence ou pas d'ailleurs, et après de les restituer aux enseignants qui se les approprient eux-mêmes, avec lesquels on écrit un projet. Voilà, donc c'était pour resituer ça, parce que c'est une problématique qui, me semble-t-il, est intéressante à prendre en compte aussi.
C'est très intéressant, effectivement. Alors, par choix, par manque de temps aussi, j'avoue, pour ma recherche, j'ai ciblé les arts plastiques et les arts visuels. Et c'est vrai que les arts vivants, ça pose d'autres questions. Et en plus, souvent, les médiations, bon, évidemment, elles ne peuvent pas avoir lieu pendant le spectacle, donc elles sont forcément une autre forme. Et ça pose d'autres questions, mais très intéressantes aussi. Et effectivement, j'ai bien conscience de la complexité aussi dans les arts vivants. Oui, d'accord. Oui, c'est un peu ce que disait Jean d'Avalon. C'est vrai que, tout à fait, souvent, le médiateur est le porte-parole de l'artiste, très souvent, c'est vrai.